France Inter.
En marge, il y a les pépites, au centre, il y a les éponges. Les premières, il faut les trouver, les secondes vous sont déjà données. En marge, les pépites ne brillent que si on se donne la peine de les approcher, les reconnaître, gratter la terre et la poussière, une vie qui les a abîmées, penser par où les attraper, qu'elles prennent un peu mieux la lumière et enfin se mettent à briller, à chacune son propre reflet, pour peu qu'on sache regarder. Au centre, une éponge s'aboie, soif de savoir et soif de toi. Tu l'ouvres, l'éponge ne moufte pas, elle est dédiée, elle est à toi. À l'école de la République, égalité, fraternité, elle est un bon petit soldat. Elle ira loin, elle marche tout droit, elle est pratique, tu peux te dire que si elle va, c'est grâce à toi. Au centre, l'effort, on y croit, c'est l'école du faucon, y a qu'à. L'élite se gagne, elle se mérite et marche ou crève, petite pépite. En marge, on sait que c'est un mythe, que l'ascenseur peut se rouiller, que parfois les dés sont pipés et que les règles ne sont là que pour ceux qui peuvent en jouer. Les incasables, les décrochés n'ont qu'à se mettre sur le côté et laisser le monde avancer, oui, mais la machine s'est grippée, le centre bouffi et fatigué de certitude, s'est essoufflé, ses articulations rouillées, il a du mal à respirer, c'est assez drôle à observer, mais c'est de la marge que vient l'air qui commençait à lui manquer.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Moi, je vais pas au conseil de classe le soir, là, avec tous les devoirs qu'on a déjà, c'est bon.
Mais genre, toi, tu fais tes devoirs, toi, maintenant, espèce de secpa, moi.
Bon, alors, on va vite arrêter avec cette histoire de secpa, vous avez compris?
Monsieur, les secpas, ils sont pas très intelligents, quand même.
Yannis, s'il te plaît, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ok? C'est juste que dans la vie, chaque enfant est différent, chacun sa manière d'apprendre.
Ah, je suis différent, monsieur, moi.
Ok, il y en a qui sont pas complètement adaptés au système scolaire classique, donc pour eux, on va adapter ce système, pour faire appel à toutes leurs capacités, c'est tout.
Mais monsieur, quand t'es là-bas, c'est la fin, frère. Tu peux plus revenir dans une classe normale. T'es obligé de finir plombier ou bûcheron, frère.
Ok, bon, j'ai plus envie de rigoler, en fait, là. C'est bon ? Ok, maintenant, on va passer au vote.
Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour, les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni où tu te crois, mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on n'a pas dit.
Alors, oui, les autres jouent les je sais. Pour une bille, faudrait que je laisse dérouler jusqu'au bout et je serai la première à m'en réjouir, mais je ne peux pas, Achille Zéro, qui je suis obligée de vous dire bonsoir.
Je comprends, bonsoir Julien.
De vous dire bienvenue.
Merci beaucoup.
De vous dire que c'est une joie de vous recevoir.
La joie est partagée, merci.
Shuriken et la vie scolaire, film 2, et avec Encore Malade, ça y est, le décor est planté. On est avec vous à Marseille, dans les classes où vous enseignez, les classes des incasables et des décrochés, si je m'en tiens au titre de vos derniers livres. Mais encore, Rachid, qui sont les incasables et qui sont les décrochés ?
Les incasables, je dirais que ce sont des jeunes qui ne parviennent pas à trouver leur place dans une école qui est censée pourtant être inclusive, accueillir tout le monde. C'est une étiquette aussi, les incasables, qu'on colle sur le front de tous ceux à qui on n'arrive pas à trouver une place et donc on les accuse de ne pas être capables de la trouver. En réalité, c'est qu'on ne la crée pas. Oui. Les décrochés, ce sont des gens qui ont des jeunes, ou moins jeunes, qui ont quitté le système éducatif depuis un petit moment. C'est un terme que vous n'allez pas forcément trouver institutionnellement. Il vient des décrocheurs, en fait. Oui. J'ai un peu retravaillé ce titre pour l'adapter à la réalité que je vois moi, à la réalité aussi que j'ai croisée en interrogeant les personnes pour les besoins de ce livre. Et donc,
les décrocheurs, c'est ceux qui ne voudraient pas, en quelque sorte, qui seraient actifs dans le décrochage, là où vous vous dites, en fait, les décrochés subissent un système qui
exactement
n'est pas fait pour eux, qui ne s'adapte pas.
Les décrocheurs choisissent, en fait, de quitter l'école, mais moi, pour avoir vu beaucoup de jeunes décrochés, pour avoir suivi ces parcours, je n'ai trouvé personne qui a réellement fait le choix assumé, éclairé de quitter l'école. Non, on les a contraints à faire ce choix, on les a poussés.
Et alors, qui sont les pépites et qui sont les éponges, puisque l'expression me vient de vous?
Les pépites et les éponges, ce sont les premiers élèves que j'ai rencontrés dans ma carrière. C'était une classe de CM1, CM2 à l'école des Chartres dans le 4e arrondissement à Marseille. C'était un quartier assez mixte socialement et je me rappelle que dans cette classe, il y avait des gamins turbulents, des gamins qui voulaient pas écouter, et puis il y avait ces fameuses pépites, ces fameuses éponges, des élèves qui étaient toujours contents de travailler, qui étaient contents de faire de la conjugaison, de l'histoire, de la géographie, peu importe la qualité de mes cours, étaient ravis. Ils savaient déjà tout, ils n'avaient pas besoin de moi. C'était très agréable d'être à leur contact, mais je ne me sentais pas forcément très utile.
C'est via Twitter que je vous ai connu, militant pour que l'égalité des chances soit une réalité à l'école. Vous y écrivez sous le pseudo de Rachid l'Instit. Juste à côté du pseudo, il y a votre photo de profil. Vous portez les cheveux longs, la barbe de 3 jours, un air, je dirais, entre le désabusé, le débonnaire, on ne sait pas. Mais on fait dire ce qu'on veut à une photo de profil. Alors, prenez ce miroir, s'il vous plaît, Rachid Zerouki, et prenez surtout le temps de vous regarder.
Okay.
Que diriez-vous de vous pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent vous imaginer ?
Je n'ai plus les cheveux longs actuellement. Je me suis dit que je viens chez vous à la radio, donc par...
C'est pour nous, vous avez fait ça ou c'est le cap de la trentaine, vous dites qu'il faut que je sois sérieux.
Non, c'est pour vous, c'est pour vous. Exclusivement pour vous, je suis allé chez le coiffeur, je suis allé même chez le barbier, mais peut-être il y a un peu trop longtemps pour que ça se voit encore aujourd'hui. mais je vois une peau qui ne me plaît pas, c'est peut-être votre miroir, mais ma peau mérite d'avoir une skincare routine. Il y a eu un temps où je faisais ça très rigoureusement, chaque matin, le masque, ensuite la crème hydratante.
Mais non.
J'ai un peu perdu ces habitudes-là.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Peut-être est-ce dû à une éducation genrée que j'ai reçue, peut-être que je n'ai pas assez assumé ma part de féminité.
Alors, vous nous direz ce soir ce que vos yeux ont vu en dehors de votre part de féminité, en dehors de votre reflet, le reflet de votre peau dans le miroir. Ce que vos yeux ont vu de la fête du trône à Fès, au rocher plat de la Ciotat, et puis Marseille, et Notre-Dame, et les Calanques, et le panier Colline Saint-Jacques, à Cavaillon, vous surplombez, vous embrassez, la poste, le parking, la vieille ville, le docteur M et la cité. C'est assez laid, vous reconnaissez. Oui, mais très vite, vous ajoutez, on est la somme de nos vues. Le docteur M, ben, c'est la mienne, celle de l'enfant que vous étiez, de l'adulte que vous êtes devenu.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marchera en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Et whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette, pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui n'ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marchera en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Il sort 12 survêt.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain.
tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais.
Aurel San baise le monde, un monde qui, le samedi soir sur France Inter, est celui des chemins de traverse, des creux, des bosses et des virages, parcours chaotiques, ceux de vos élèves, par exemple, Rachid Zerouki, que l'on peut lire dans votre dernier livre, Les Décrochés. Mais ce soir, c'est votre histoire que vous nous racontez.
France Inter. En marge.
أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكه.
On est en pleine fête du trône. Le 30 juillet 92, les drapeaux sont de sortie, la fanfare aussi. Bientôt, plus tard, le Maroc tout entier célèbre l'intronisation du roi, comme chaque année. Mais sans le savoir, cette année aussi, l'arrivée du petit Rachid Zerouki, dont la légende dit que tout bébé, il cessait de pleurer. À peine voyait-il une photo du roi. C'est vrai ça ?
C'est vrai, du roi Hassan II, je précise, parce que j'ai connu deux rois quand même dans ma petite vie.
On a le sens du devoir, on ne l'a pas. En tout cas, l'enfance à Fès a le goût du raïbim, il chèque à la framboise, et pour en faire la pistache, Rachid, pardon, mais ils ont attendu que vous soyez parti. Elle a le son du chat qui feule sur le palier, qui feule et qui vous fait flipper. Vous êtes sûr qu'il est habité par l'âme d'un humain décédé. Et puis, cette enfance, c'est aussi le bruit du quartier, des voisins en train de s'engueuler, chant du vendeur à la criée, et puis le son de la télé. L'hymne marocain, hein, pour commencer, de bon matin, le poste, on vient de l'allumer.
Il est 6h50, on est à 10 minutes des dessins animés, je me lève, okay. J'allume la télévision et c'est ce que j'entends, l'hymne marocain. Parce que deuxième, la chaîne nationale ne transmet rien pendant la nuit, se réveille à 6h50 avec l'hymne qui précède les dessins animés. Donc quand on aime les dessins animés, on croise forcément l'hymne.
On croise l'hymne. On croise Justin Timberlake qu'on vient d'entendre, on croise le Real Madrid à la télé. Je précise qu'on est dans la chambre à tout faire, hein, et les salons, salle à manger, il y a vos parents, votre sœur, votre frère. Et il y a même Jennifer.
Oui, il y a Jennifer, faut aussi, pas oublier Jennifer.
Sans aucune transition. Bim bam, on enchaîne. Et les dessins animés, promis, attention, vont bientôt arriver. Donc en fait, c'est quoi cette famille ? C'est un joyeux bordel ? C'est un bordel organisé ? C'est quoi ?
C'est plutôt un joyeux bordel qu'un bordel organisé. En fait, on est trois à vivre, à dormir dans cette chambre. Il y a moi, mon frère, ma sœur. On est très différents les uns des autres. On a quelques années d'écart, des goûts très différents, des centres d'intérêt différents. Mais on partage les mêmes... 6 mètres carrés.
Et vos parents squattent votre chambre et pour regarder la télé avec vous.
Et on mange dans cette chambre et on vit dans cette chambre et on regarde la télé, une toute petite télé. Oui, oui, c'était notre chambre de vie, en fait. Pas seulement notre chambre où on dort, c'est une chambre où on vit.
Et vos parents, alors votre mère, par exemple, vous aimeriez nous en dire quoi ?
Ma mère, je dirais que c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si on peut dire qu'elle s'est sacrifiée. Elle a fait le choix de toujours privilégier les besoins de ses enfants. Je pense qu'elle a quand même pris du plaisir à nous élever, à nous éduquer, elle nous a transmis des valeurs. Elle aime voir qu'elles sont toujours là, je pense. Voilà,
Vous pensez qu'elle n'a rien sacrifié ?
Je pourrais difficilement répondre à sa place. Après, oui, si, bien sûr, elle a dû forcément sacrifier quelque chose de ses passions, parce que éduquer trois enfants, et comme nous en plus, ça vous prend du temps. Mmh. Et puis, oui, peut-être qu'elle a sacrifié des moments de liberté. Peut-être qu'à certains moments, au lieu de venir nous chercher à l'école, ou au lieu de nous faire apprendre des poèmes ou que sais-je, peut-être qu'elle aurait voulu prendre ce temps-là pour elle.
Et votre père, quel genre de père ou quel genre d'homme c'était ?
Mon père, c'est le sens du devoir.
C'est vrai.
Père, oui. Vous pouvez toujours vraiment compter sur... C'était un professeur aussi, mon père.
Ouais, prof de science.
Ouais. De science au Maroc. Et moi, je pouvais m'offrir le luxe absolu de ne rien faire à l'école, de ne rien écouter. J'y allais, je me posais et je savais que la veille de l'évaluation, il allait tout m'expliquer. Parce qu'il prenait mes cours, il les comprenait, parce que lui, c'était que les sciences. Alors, l'arabe ou les maths, il fallait qu'il révise lui-même. Et il le faisait, il comprenait, il apprenait, après, pour m'expliquer.
C'est votre père qui, tous les matins, vous emmène tous les trois à l'école au volant de sa Peugeot 405. Sur tous les trajets et tous les jours de toutes les années de votre scolarité, vous entendrez ceci.
Stay again. Many
les Cranberries, Zombie, parce que...
Parce que... C'était le groupe, mon grand frère était absolument fan des Cranberries. On n'avait pas beaucoup de disques à la maison, mais celui-ci, voilà, ça revenait tout le temps. Chaque matin, c'était le rituel. On rentrait dans la Peugeot 405, il sortait ce CD, il le mettait. Et c'était The Cranberries, Zombie, en piste numéro 1. Et la journée commençait forcément avec ça.
La voiture vous dépose à l'école. Vous avez quel sentiment en arrivant dans cette école ? Comment ça se passe pour vous là-bas ?
Alors là-bas, il y a eu deux écoles dans ma vie marocaine, on va dire. Parce que la première école, c'est l'école marocaine, Al-Masar. Là-bas, c'est difficile de vous parler d'autre chose que des coups. Parce qu'ils ont surplombé tout le reste. Moi, j'étais un garçon plutôt sage. Hein. Je faisais mes devoirs, je récitais mes leçons, je réveillais très tôt ma mère pour qu'elle m'apprenne les sourates du Coran parce qu'il fallait les réciter le matin et je faisais tout ça. Mais il y avait des fois où, je sais pas, on pouvait se tromper. Et je me rappelle que quand on se trompait, c'était le bâton, tout simplement. Ah oui. C'était le bâton. Il y a forcément eu d'autres choses dans cette école. J'ai connu des gens, je jouais, je riais. Il y avait aussi de la gentillesse chez ces maîtresses-là. Mais quand vous avez subi ce sentiment d'injustice, il efface tout le reste. Donc c'est de ça dont je me souviens plus que tout le reste. Mais j'étais pas celui qui prenait le plus de coups. Donc j'imagine pour ceux qui étaient encore pire que moi.
Ça, c'est les premiers temps, c'est l'école marocaine. Et puis un jour, vos parents vous inscrivent à l'école française. Vous avez 10-11 ans.
Ouais.
Et là, le souvenir qui domine le reste, c'est quoi ?
C'est le sentiment d'être incasable, pour le coup. Ouais. Là, on retrouve le titre et c'est le sentiment de vraiment pas trouver ma place. Parce que dans cette école, je fais tâche, mais tellement tâche. Dans l'école française au Maroc, soit vous avez beaucoup de pognon, et du coup, vous êtes inscrit parce que vos parents peuvent se permettre de payer les frais d'inscription. Soit vous êtes français, et donc c'est gratuit, vous êtes boursier, donc vous n'avez pas besoin de payer des frais d'inscription. C'était mon cas, t'es pas beaucoup dans ce cas-là.
Parce que vos parents ont pu obtenir des papiers français.
Voilà, mes parents, c'était la surprise. Un beau matin, vous réveillez, vous apprenez que vous êtes français, et vous ne savez pas du tout d'où ça vient. Je vous mets dans la peau de la personne que j'étais. Ouais. Je ne sais pas d'où ça vient. France-Brésil 98, moi j'étais à fond pour le Brésil. Je n'avais rien de français. Pas un atome de français.
Ouais. Okay.
Et j'étais triste que le Brésil perde. Et puis, voilà. Quelques années après, je découvre que je suis français et que je vais m'inscrire à l'école française. Gros chamboulement. Et donc, voilà, on était peu dans ce cas-là, à l'école française. Et je me sentais vraiment étrange.
Mais concrètement, les conséquences au quotidien, c'est quoi ?
Les conséquences au quotidien, c'est marcher dans la cour de récré en faisant croire, avec ma démarche, que j'allais quelque part. Mais j'allais nulle part. Je voulais juste pas montrer que j'étais seul. Donc, je marchais, j'allais un coup aux toilettes, un coup... Masquer un peu la solitude, le sentiment de me sentir étrange, parce que dans ces circonstances-là, si vous montrez à des jeunes de votre âge que vous êtes étrange, que vous ne trouvez pas votre place, mais c'est un cercle vicieux parce que ça renforce ce sentiment.
Les humiliations, les moqueries.
Les moqueries, et puis je préférais peut-être l'indifférence à ça. Donc c'était une façon de me protéger. Et puis on peut ajouter à ça aussi le mépris de classe qu'il y avait. J'étais français, je payais pas, donc on était une famille assez modeste. Contrairement aux autres, j'étais entouré de personnes qui étaient quand même très favorisées. Et ça se voyait, et je voulais aussi un peu masquer ça.
Vous avez à l'époque un accent très prononcé en français, vous en avez honte, vous voulez le cacher. Par esprit de revanche, sans doute, la langue, au contraire, vous voulez la maîtriser absolument. Que représente la lecture et l'écriture pour vous ?
Un défi, et c'est une façon de prendre ma revanche, en fait. C'est parce que vous arrivez dans cette école-là, vous ne maîtrisez pas la langue que tous les autres maîtrisent. Des mots qui vous échappent, vous êtes... Le premier jour, pour moi, il est marquant. J'arrive, on me parle de fourniture, on me dit comment va se dérouler ma journée. Je comprends 20% de ce qui se dit. Je suis dans le flou le plus total. Et les gens le voient, et ça fait pitié, je pense. Et donc, j'aimais pas ça. Je voulais prendre ma revanche, et donc... maîtriser un peu cette langue, essayer de m'en servir pour donner tort aux gens.
Vous rêvez d'être écrivain sur votre table de chevet, 100 ans de solitude que vous lisez et relisez, Stakhanovice de l'écriture, la moindre rédaction. Vous la bossez, voulant la perfection et jusqu'à l'obsession. Il y aura même un début de roman, une histoire de ninja qui ne vous convainc pas, vous la jetez dans les toilettes et elle finit par les bouchers. Comme souvent, c'est avec ça que vous vous consolez. Vous reconnaissez ?
Bien sûr.
C'est quoi ?
Tuzan Arkant. La musique phare du jeu Final Fantasy X. Et puis, ça aurait pu être n'importe quelle musique de Final Fantasy, parce que Final Fantasy, c'était mon refuge. C'est un monde totalement différent d'une autre, qui n'a pas grand-chose à voir. C'est
On se parle de jeux vidéo. Hein,
de jeux vidéo, oui. Sur la PlayStation, la PlayStation 1. Final Fantasy, j'allais le chercher dans une sorte de souk, où il y avait un vendeur de jeux vidéo chez qui j'allais tout le temps, il s'appelait Fouzi. Et Fouzi, il vendait des jeux piratés. Donc on les achetait à 10 dirhams, c'était 1 euro. Et puis c'était pour 1 euro, pour 10 dirhams, vous aviez un monde dans lequel vous réfugiez par rapport à tout ce qui pouvait vous tracasser. Et Final Fantasy X, c'était ça. C'était un voyage, c'était une expérience. Je m'y plongeais et j'adorais ça.
Vous êtes adolescent, âge où théoriquement une autre vie peut commencer, vie amoureuse, vie affective et plus si affinité. Quelle place prennent l'amour et la sexualité dans votre adolescence ?
Dans mon adolescence, c'est la place du néant. Moi, j'étais le cliché du geek. Quand je vous dis que j'étais dans Final Fantasy X, j'y étais profondément et donc les filles, ça n'existait pas. Pas tant pour moi, c'était pas ma priorité de l'époque, parce que ma priorité c'était juste de trouver ma place déjà. Les filles c'était loin, les filles il fallait avoir trouvé sa place, il fallait être populaire, il fallait être beau, j'en étais pas là.
Et votre place au milieu des garçons alors, est-ce que vous la trouvez ? Ce que je veux dire c'est que c'est un âge aussi où apparaissent les codes sexués, toutes ces injonctions notamment à la virilité, comment vous les vivez vous ?
Je les vis en faisant des efforts quand même, parce que je pense pas avoir... de virilité innée, et donc forcément il y avait ces efforts fournis de ma part pour être le garçon marocain viril qu'on connaît, celui qui traîne dans le quartier, celui qui sort à toute heure, qui rentre sans qu'on lui pose de questions. J'étais pas ça du tout en réalité. c'est l'image que je voulais renvoyer, et voilà, le but était de faire le moins de vagues possible, de coller le plus à la norme, même si j'avais beaucoup de mal avec
ça. Ce qu'on attendait de vous, quoi. Vos parents vous en disaient quoi ? Ils vous renvoyaient quoi comme image du féminin et du masculin ?
Mes parents, je pense qu'eux-mêmes étaient dans une sorte de conformisme à ce niveau-là, parce que c'est très difficile de rejeter ces questions-là qui n'étaient pas du tout dans la société marocaine de l'époque, en tout cas à mes yeux. Et donc, ils ont tenté, je pense, de... m'offrir une éducation qui jugeait être la meilleure, une éducation qui est forcément genrée.
L'adolescence pour vous, c'est aussi l'âge de votre première rupture, rupture avec vos racines, avec votre culture. Vos parents vous emmènent vivre en France. Pourquoi ?
Là, pour le coup, oui. Quand j'ai parlé de sacrifice au départ, là, c'est un énorme sacrifice pour eux, parce que s'ils nous ont menés à vivre en France, c'est vraiment pour nous. Et pas une seule seconde pour eux. Eux qui avaient toujours vécu au Maroc, qui aimaient vivre au Maroc, qui avaient toutes leurs habitudes, tout leur cercle social au Maroc. Non, non, la France, c'était pour leurs enfants, c'était pour nous offrir un avenir. Parce que le taux de chômage au Maroc pour les jeunes bat des records. C'est très difficile de trouver sa place dans le monde professionnel, de trouver socialement, de construire quelque chose. Et donc, ils pensaient, et à juste titre, même avec toutes les difficultés qu'on connaît maintenant, mais que la France allait pouvoir nous offrir ça avec plus de facilité que le Maroc.
Dans Les Décrochés, parlant d'un de vos élèves, Souleyman, vous écrivez « Ses parents, comme les miens, ont sacrifié leur confort sur l'autel de notre avenir. Ils ne le savent pas, mais leurs gestes nous placent d'emblée dans la peau d'éternels endettés. Quoi que nous fassions, lui et moi, nous ne pourrons jamais finir de compenser le lourd tribut qu'ils ont payé au déracinement. »
Come on. يلومونا بالغربة لا تكذبوا على الرومية أنا ما نسيت البندير
Nassel Riwan, groupe marocain culte pour la jeunesse des années 70, mais même pour bien des générations après. Où emmènes-tu mon frère, dit la chanson. En arabe, Rachid Zerouki, ça donne Pourquoi cette chanson-là?
Cette chanson, parce que, vous l'avez vu, c'est des sonorités qui sont quand même assez dansantes, on a envie de suivre. Mais en réalité, c'est moi, la chanson la plus triste que je connaisse.
Parce qu'elle dit quoi?
Parce qu'elle raconte le déracinement mieux que n'importe quelle chanson. Finradi Biyahoya se pose la question en boucle, il ne sait pas où il va. Et c'est une chanson, je pense, qui parle à toutes les personnes qui ont connu le déracinement, mais dans leur propre vie. Parce que quand on est enfant d'immigré, je ne dis pas, bien sûr, quand on a un peu des restes de ça. Et on subit et on vit et ça peut faire mal. Mais quand on l'a vécu, c'est autre chose. Et je pense que ça parle à tous ceux et celles qui sont dans ma situation.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce déracinement, le jour du départ, celui de l'arrivée, peut-être même la traversée?
Beaucoup de souvenirs, parce que le déracinement s'est quand même fait progressivement. On allait parfois pendant un mois, deux mois, pendant l'été, voir la famille qui était déjà là en France, parce que c'était ça, les Zerouquis, ça a fonctionné comme ça. Chacun prenait le bateau, c'est-à-dire le bateau de deux jours, là, le temps G7, arrivait en France, demandait un logement social, un HLM, on trouvait à Cavaillon. Les premiers se sont logés à Cavaillon, les premiers Zerouquis qui ont foulé le sol de la France ont trouvé un logement à Cavaillon, parce que pas grand monde veut habiter à Cavaillon. Et donc après, la famille qui venait après, logée chez la première, demandait un logement social et on lui trouvait un logement social à Cavaillon, dans la même cité, Docteur M. Donc maintenant, vous savez, un Zerouki par immeuble, à Docteur M. Et c'est ça, en fait, les souvenirs, c'est des choses assez progressives. C'est beaucoup la traversée du bateau. Parce que là, ça dure deux jours, vous avez le temps de faire beaucoup de choses et surtout de réfléchir. Parce que ces deux jours, vous n'avez pas de réseau, pas de... la lecture n'était pas ma passion du tout, donc je passais ces deux journées-là à regarder la mer et à réfléchir. Ouais. Elle me disait, qu'est-ce que je laisse derrière moi et qu'est-ce que je vais trouver devant moi? Et ça, ces périodes de réflexion intenses restent encore.
Vous arrivez en France, vous êtes surpris, dites-vous, par le silence fini, les bruits du quartier. Bonjour, les tours de la cité, quartier du Docteur M, vous voici arrivés. Et bientôt le lycée où vous vous sentirez définitivement incasable, encore une fois, Rachid Zerouki. Incasable, c'est le titre de votre tout premier livre, Plaidoyer pour une école qui serait vraiment celle de l'égalité. Vous êtes sur France Inter, bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Ok, I sing in English. Ok, I can speak French. And maybe if you see me.
Ouais. J'étais très heureux de faire écouter Oba Oba Spirit aux auditeurs et aux auditrices de France Inter.
Pourquoi?
Parce que je pense qu'on ne connaît pas du tout Oba Oba Spirit en France.
Et c'est qui?
C'est un groupe marocain, un groupe un peu rebelle, un peu funk, un peu qui touche à tout. C'est du rock aussi, un peu de rap, qui parle de sujets de société très diversifiés. C'est un groupe engagé, très engagé. Mm-hmm. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce groupe.
Vous avez un rapport à ce groupe assez particulier parce qu'en fait, j'ai bien compris, au Maroc, vous ne l'écoutiez pas forcément.
Exactement.
Quand vous arrivez en France, vous mettez à l'écouter.
Là, j'en fais l'éloge, mais effectivement, au Maroc, je n'écoutais pas Obaoba Spirit. C'était. Et d'ailleurs, ça fait partie de toute une culture marocaine, arabe, que j'ignorais. Quand j'étais au Maroc, j'étais beaucoup plus influencé par la culture, on va dire, occidentale.
Mais Jennifer et Justin Timberlake.
Exactement, exactement. Et oui. Puis, peut-être qu'on en parlera après, les Link Up, je crois, à mon étoile, le premier groupe de Matt Pokora, je suis.
Évidemment.
Et oui, M6 était. Enfin, c'était les chaînes qu'on captait au Maroc. Et donc, j'étais tout le temps sur ces chaînes-là. Et puis, j'arrive en France et je ressens le besoin, parfois même charnel, de me reconnecter à cette culture-là. Obaoba Spirit l'illustre bien.
Vous avez 15 ans, vous entrez en classe de 3e dans ce lycée de Cavaillon. Comment ça se passe là-bas pour vous?
Oh, la première année, elle est chaotique. Hein. Ouais. Alors, je ne trouve absolument pas ma place. Autant à l'école française au Maroc, je commençais à me faire quelques amis. On trouvait, j'étais dans voilà, un petit groupe de geeks où on pouvait parler jeux vidéo. T'en arrivais là. J'arrive à Cavaillon. Cavaillon, petite ville, les groupes sont déjà faits depuis la maternelle. Hein. Tout le monde se connaît. Et on arrive, j'arrive comme un cheveu dans la soupe dans cette histoire. Et je trouve absolument pas ma place. Et encore une fois, même délire, hein. Je cherche à masquer ça. Le temps de trouver une place dans cette société, dans ce petit microcosme du Vaucluse.
Et donc, comme là-bas, comme au Maroc, vous faites semblant, dans la cour de récré, d'avoir une destination, un truc à faire, une pensée qui vous occupe. Le temps, vous le tuez, enfermé dans les toilettes, en tête à tête, avec votre sentiment d'étrangeté. Après le bac, vous filez à la Ciotat. Le rocher plat, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il sait de vous, ce rocher? Qu'est-ce que vous y avez fait?
Le rocher, il m'a vu trouver ma passion pour la lecture. J'ai passé... Je pense que j'ai lu plus sur ce rocher que durant toute ma vie. Et même maintenant, je lis beaucoup moins que lorsque j'étais sur ce rocher. Oui, oui, c'est un rocher, on dirait qu'il était fait pour ça. Vous aviez un paysage merveilleux. C'était isolé derrière une sorte d'ancienne usine désaffectée. Il était comme un lit, plat comme un lit, vraiment, très confortable. Et donc, il m'a vu réfléchir, il m'a vu décider de ce que j'allais faire de ma vie, il m'a vu lire beaucoup, beaucoup de livres.
Qu'est-ce que vous faisiez à la Ciotat?
À la Ciotat, je voulais devenir pompier. Mm-hmm. Je voulais devenir pompier, j'étais en DUT Hygiène, Sécurité, Environnement pour le sens du service public. Et moi, le sens du service public, ça me parle beaucoup, c'est lié à mon histoire personnelle. Mm. J'arrive en France, c'est quand même l'école, c'est le seul truc qui fait le lien. Je connais le mode de fonctionnement de l'école, je sais ce que je dois faire en classe. Et cette école-là, je me sens redevable. Parce qu'elle me donne quand même, m'a permis d'apprendre, de comprendre ma situation et puis de trouver une place par la suite. Et donc, je voulais absolument contribuer à ça, à ce service public. Et je voyais dans ce métier de pompier une façon de le faire. Et puis... tout en étant en accord avec la virilité aussi qui entoure le métier, bien sûr. Je pense qu'il y avait un peu de
quelque
ça.
Quelque chose d'un super-héros.
Oui, ouais, ouais. Je ne réalisais pas forcément à l'époque, mais oui, il y avait un peu de ça.
Et qu'est-ce qui coince, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous ne deviendrez pas pompier?
J'ai pas aimé les études que je faisais là-bas. J'ai pas assisté à beaucoup d'études aussi, je dois dire, à la Ciotat. J'étais beaucoup sur le rocher.
Ah voilà, c'est à cause du rocher, tout ça.
Oui, c'est le rocher, sacré rocher. Je courais aussi beaucoup. Je faisais même des compétitions où j'arrivais dernier, mais on en parlera. mais je courais, j'étais sur le rocher. Et puis, j'ai fait un stage. Et finalement, je me suis rendu compte que ça collait pas trop à ce que...
C'est-à-dire chez les pompiers, il y a aussi un esprit de corps très fort. Il y a quelque chose de très... pour le coup... parfois, au-delà de viril, de viriliste, pour quelqu'un qui ne se sent pas forcément en accord avec ça, du moins pas tout le temps, il devait y avoir un hiatus entre eux et vous, peut-être que je surinterprète.
Oui, et puis je pense aussi que c'est aussi l'ambiance de l'établissement où j'étais, ce DUT, Hygiène, Sécurité, Environnement, où j'étais le seul arabe, le seul. Le seul, même racisé. Ouais. Donc, dans ces conditions-là, déjà, vous vous sentez forcément étrange. Vous avez du mal à trouver votre place, encore une fois. Et puis...
Mais est-ce qu'on finit pas par s'habituer à ce sentiment d'étrangeté? Se dire, finalement, je suis comme ça, je suis habitué à ça. Est-ce que cette habitude-là finit pas par créer une forme de confort dans l'inconfort?
Pour moi, non. Moi, je n'ai jamais trouvé du confort dans cette situation-là. Parce que, après, c'est dû aux objectifs que je me suis fixé inconsciemment. Moi, je veux me fondre dans la masse. Ouais. Je ne veux pas paraître étrange. Et donc, non, je n'ai jamais été à l'aise avec cette idée.
Vous quittez la Ciotat, vos valises, vous les posez à Marseille. À 19 ans, cette fois, ça y est, vous savez, vous serez prof. Qu'est-ce qui vous séduit pour le coup dans ce métier-là ?
J'en ai beaucoup discuté avec le rocher. C'est là que ça s'est décidé. Ce qui me plaît, c'est qu'on est dans le service public. Et on a la possibilité d'avoir une incidence sur des destinées. Comme moi, on a pu avoir une incidence sur la mienne en étant professeur. Ben, voilà, je voulais avoir ce poids-là. C'est quelque part assez égoïste, hein, parce que l'envie de peser, c'est pas... C'est en même temps philanthrope et en même temps aussi, ça a beaucoup à voir avec l'égoïsme.
Enfin, l'altruisme est pur et dur, on se dit qu'on y croit ou que ça n'existe pas ?
Je pense qu'il y a quand même un peu d'altruisme dans ma démarche, mais...
Oui, mais qu'il soit plein et entier, qu'on fasse des choses uniquement pour l'autre, ça n'existe pas,
non,
ça ?
Non, je crois qu'il y a forcément un peu dilué dans autre chose. J'y crois, hein, je suis quelqu'un d'optimiste et de positif, donc je crois à l'altruisme, mais je crois que c'est souvent dilué aussi dans d'autres sentiments. Et donc, c'est un stage dans une école primaire, à un moment où je devais m'occuper de la sécurité de l'école primaire, où... Je rencontre une professeure des écoles qui est très engagée dans son travail, qui reste jusqu'à très tard, qui parle avec les parents et qui aime ce qu'elle fait, qui trouve du sens dans ce qu'elle fait. Moi, j'étais vraiment à la recherche de sens, comme tout le monde, je pense. Et je l'ai trouvé à l'école.
Premier poste au Chartreux, quartier mixte, on le disait, un élève aux origines diverses. 2 ans plus tard, vous êtes titulaire et vous vous retrouvez en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. C'est un choix de votre part ? Ou est-ce que, comme dans la vie scolaire, vous vous retrouvez là comme une punition ?
Alors, c'est pas tout à fait un choix. C'est un choix, mais en me disant que j'allais faire mes armes là-bas pour avoir assez de points d'ancienneté, pour bouger ensuite et retrouver une école.
Mais parce que c'est des postes dont personne ne veut,
oui.
Donc là, vous aviez plus de chances d'être pris.
Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très mal organisé. Et quand on débarque dans l'éducation nationale, quand on a un point d'ancienneté, c'est le point de la titularisation, ben soit on prend des postes fractionnés, c'est-à-dire qu'on est un jour là, soit on prend des postes dont personne ne veut, dont la SECPA.
D'accord.
Moi, le fractionné, c'était absolument à éviter, mais pour le bien des enfants, parce que je suis tout à fait capable d'aller le mardi à l'école du lundi. C'est aussi l'effet du matin qui fait ça, je dors très peu, donc allez savoir où ça aurait pu me mener, cette situation-là. Donc je choisis d'aller en SECPA, je ne sais pas très bien ce que c'est, la SECPA, on ne m'en a pas parlé à la fac.
Et le premier jour de la rentrée, au Cailleul, en bas de la colline Saint-Julien, vous voilà poussant la porte du lycée avec là-dedans un cœur qui bat, la trouille, les foies, on ne sait pas. Et la seule chose à même de vous tranquilliser, de vous ralentir le pas, c'est ça. Mais ça, c'est quoi ?
Ça, c'est la bande originale de ma vie. C'est la chanson intro de The XX. Je crois que tous les élèves que j'ai eus dans ma carrière connaissent forcément. J'en suis absolument sûr. Parce que sur moi, cette musique, elle a un effet hyper déstressant. Ça m'enlève toute mon angoisse. Ça m'accorde une certaine forme de sérénité, ça me permet de mieux réfléchir. Et donc, je me suis dit que peut-être ça aurait le même effet chez les autres. Donc, souvent, pendant les évaluations, pendant les moments de stress, je mets cette musique.
En tout cas, là, vous l'aviez dans vos écouteurs le tout premier jour de la rentrée. Racontez-nous dans quel état vous êtes.
Je suis forcément très angoissé parce que c'est ma nature. Donc je mets cette musique-là vraiment exprès. Parce que je cherche l'effet qu'elle fait sur moi d'habitude. Ça ne réussit pas forcément parce que là, c'est trop gros. C'est mon premier poste. Et surtout, je sais...
Vous avez quel âge à ce moment-là ?
C'est l'inconnu. J'ai 23 ans.
Ouais.
23 ans et c'est l'inconnu parce que la SECPA, personne m'en a parlé. Je ne sais pas ce que je vais trouver là. Et je ne sais pas si ça va me faire plaisir. Surtout, on m'a fait peur un peu quand même. On m'a fait peur.
On vous a dit quoi ?
On m'a dit, est-ce que tu as bien pensé à prendre ton gilet pare-balles pour rigoler ? Mais parce que, attention, les jeunes là-bas, ça rigole pas. Ouais. Mais bon, si tu vas là-bas, tout te paraîtra facile après. On m'a dit ça. Parce que c'était tellement difficile dans l'esprit des gens que tout allait paraître si facile après.
La réalité, c'est quoi ? Qui sont les élèves que vous avez devant vous ? J'allais dire les enfants, non ? Mais les élèves.
La réalité, c'est que cette angoisse que j'avais, elle était partagée. Partagée avec les élèves, je ne le savais pas encore, mais j'avais des élèves qui, le premier jour, celui de l'appel, ne répondait pas. Ne répondait pas parce que au micro, la chef d'établissement de l'époque appelait les classes, enfin appelait les élèves en fonction de leur classe. Et donc elle arrive au mien. J'étais professeur principal des cinquièmes, donc ils savaient déjà ce que c'était la SECPA. Elle dit 5e A, elle donne la liste de noms. 5e B, elle donne la liste de noms. 5e SECPA, elle donne la liste de noms. Là, pas grand monde pour lever le doigt. Les ces jeunes-là ne veulent pas montrer aux yeux des autres qu'ils sont en SECPA.
Par peur de la stigmatisation ?
Oui, par peur de la stigmatisation, et parce qu'elle est là, hein, cette stigmatisation SECPA dans la cour des récré, y compris dans le collège où j'étais, collège des Cailloles, c'était une insulte. Et donc, il y avait la volonté de se soustraire du regard des autres, et donc il a fallu aller les chercher dans la cour après, une fois que tout le monde était monté, et je comprenais pas ça, c'est quelque chose que je vais comprendre au fil du temps.
Et qui va vous rapprocher d'eux, parce que cette peur de la stigmatisation, vous l'avez vécue, vous nous le racontiez il y a quelques minutes encore, donc c'est...
Absolument.
Finalement, vous rencontrez assez vite un écho entre eux et vous.
Oui. Oui, je pense que c'est un écho, et je me dis que j'ai quelque chose à leur apporter, pas parce que je suis un professeur extraordinaire ou que sais-je, mais parce que j'ai vécu ce qu'ils vivent d'une autre façon. Je sais ce que c'est d'être, de se sentir étrange, de vouloir se fondre dans la masse, je sais ce qu'ils sont en train de vivre.
Ce qui vous saute aux yeux, c'est leur fragilité.
Oui.
Assez vite, c'est-à-dire que derrière la carapace de gros dur, il y a quoi ? Il y a des brèches, il y a des failles, il y a des fêlures, il y a...
Bien sûr, il y a une vraie blessure, et pas une blessure qui s'est renfermée, hein. C'est une blessure en cours, parce que les élèves arrivés en 6e ne comprennent pas très bien ce que c'est la SECPA. 5e, 4e, là, on commence à comprendre, et on sait que cette étiquette-là qu'on a sur le front nous dérange, on veut l'enlever, mais c'est pas toujours possible. Et donc, ouais, s'il y a un point commun vraiment qui les relie, au-delà de la grande difficulté scolaire, c'est la fragilité.
Alors très vite, vous allez comprendre qu'il faut vous adapter contre la théorie de l'enseignement et sa pratique. Il y a, pour le coup, comme un gap. Qu'est-ce que vous changez dans votre pédagogie ou dans votre façon d'appréhender votre métier ?
Je change un peu tout en réalité. Je m'adapte parce que j'arrive avec des belles idées, des convictions pédagogiques que j'ai trouvées à la fac un peu, mais aussi un peu dans mes lectures, parce que j'avais beaucoup lu avant d'arriver là. J'étais blindé de théories. J'avais lu Freinet, j'avais lu Montessori, j'avais lu Paulo Freire, des auteurs et des autrices que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'ai tout jeté, mais j'ai adapté ça parce que je me suis rendu compte que il y avait des choses qui fonctionnaient avec un public favorisé, qui était à même de se poser des questions, qui savait en fait apprendre à apprendre, qui avait déjà cette autonomie qu'on nous demande à tout prix de sur lequel on est censé se reposer dans un système Montessori, ouais, ou Freinet. Et j'apprends que cette autonomie-là est socialement marquée, et qu'il y a des jeunes chez qui il faut la cultiver. Avant même de se reposer dessus, ouais, il faut la cultiver, il faut la créer.
Ouais.
Et donc ça change tout.
Mon évolution en termes de pédagogie, écrivez-vous, ressemble plutôt à une régression. Je suis sortie de l'université avec des convictions. Une fois sur le terrain, j'ai cultivé des doutes. N'empêche qu'à force de cultiver vos doutes, vous mettez en place une relation épistolaire avec un EHPAD. Par exemple, vous organisez une cagnotte pour Booba, le SDF, qui dort, ouais, sous l'abribus. Et puis un jour, dans votre classe, Nina Simone fait son apparition. Qu'est-ce que va faire Nina Simone dans votre classe ?
Elle vient introduire une séquence sur l'esclavage. Et je préviens mes élèves avant, c'était mon introduction sur cette séquence-là, Nina Simone, je préviens les élèves que qu'on va aborder quelque chose de difficile et qui nécessite d'effacer les sourires, qui nécessite de se taire. C'est une classe très très vivante. Hein.
Ouais.
Et je mets Nina Simone. Et là, j'ai plus aucun bruit. Ce que j'ai jamais eu avant. Pas le moindre bruit, pas une trousse qui s'ouvre, pas un stylo qui tombe, rien.
Qu'est-ce qui se passe à votre avis ?
Je crois que c'est quelque chose qui relève de inexplicable. C'est magique. C'est la voix de Nina Simone. C'est ce piano, c'est cette musique qui leur parle d'une façon dont je ne leur ai certainement jamais parlé. Elle parle à leur cœur.
Ça veut dire que vous adaptez votre pédagogie, vous adaptez aussi votre positionnement face à eux. Vous êtes prof, mais bien au-delà, vous êtes quoi ?
difficile de trouver un mot pour c'est vrai que c'est différent de prof tel que je l'étais à l'école des Chartreux. Là, c'est prof, et puis il y a quelque chose au-delà qui est entre le coach, l'ami, le confident.
Et c'est compliqué parce qu'en même temps, il ne faut pas vous défaire, comme vous le dites dans votre livre, de toute autorité.
Exactement.
Non plus.
C'est quelque chose, là encore, que je vais apprendre à mes dépens, parce que ça va venir des élèves eux-mêmes qui vont me dire, mais monsieur, vous êtes trop gentil. Un après-midi où c'était vraiment le bordel. Monsieur, vous êtes trop gentil. Et c'est vrai, c'est pas vrai, c'était pas vraiment de la gentillesse. C'était peut-être, et là, il y avait quelque chose à gommer dans mes gestes professionnels, c'était peut-être de la compassion, peut-être un peu de pitié. Ça, c'était à effacer, ça leur faisait pas
une
du bien.
Une culpabilité aussi?
Oui, peut-être une culpabilité. Le fait de me dire que ces jeunes-là, ils avaient connu à l'école que des échecs. On n'a fait que leur reprocher des choses et leur dire qu'ils étaient incapables, et leurs bulletins sont pleins, remplis de ça. Et je voulais autre chose, je voulais abolir les barrières. C'était aussi des convictions pédagogiques que j'avais. Je voulais les règles, à les construire avec elles et eux, qu'on fasse quelque chose qui nous corresponde à tous. Mais je me suis rendu compte que il fallait aussi que j'impose moi-même certaines limites pour le bien de tous les élèves. Et c'est venu d'eux, cette remarque-là. C'est eux qui m'ont appris.
Et alors, quand vous écrivez sur eux, vous le faites pourquoi?
Quand j'écris sur eux, c'est une façon de répondre aussi à ce qui est dit sur ce public-là.
C'est une façon de leur rendre justice, de les réhabiliter, de gommer ce qu'on a dit d'eux?
Oui. Oui, c'est moi. De toute façon, je considère que j'ai une dette envers ces élèves-là. C'est pas pour faire une belle phrase. Je considère vraiment que j'ai une dette parce que déjà ils m'ont appris mon métier, parce que j'ai passé des moments formidables avec ces élèves-là, tellement formidables que j'ai ressenti le besoin de les partager, et ça a fait ces livres qui sont là. Et puis, parallèlement à ces moments que je vivais avec eux, je voyais des discours tellement éloigné de la réalité, sur les gamins en difficulté scolaire, sur les décrocheurs, mais aussi sur les gamins qui sont simplement en difficulté. Et c'était à milieu de ce que je vivais, donc je ressentais quand même une nécessité, un devoir de corriger ce qui se dit.
Mais alors pourquoi avoir arrêté 3 ans plus tard? Vous en aviez fait le tour?
Oui, je considérais que j'avais fait le tour, c'était faux, parce que j'allais refaire un tour juste après. Mais je voulais aussi aller vers d'autres zones de l'enseignement spécialisé, et notamment l'enseignement en milieu pénitentiaire. C'est une expérience aussi qui va beaucoup m'apprendre, qui va être brève, et je vais vivre un échec, là pour le coup, parce que finalement je me sens pas bien. Et quand je me sens pas bien, j'étais dans un mal-être en établissement pénitentiaire pour mineurs, je sentais que j'apportais pas grand-chose à ces élèves-là, l'enfermement, j'y arrivais pas. Et donc, je retrouve une SECPA.
La scène d'adieu que vous décrivez avec vos élèves de SECPA est très émouvante. Vous écrivez « En arrivant, j'ignorais tout ce que j'allais recevoir en retour, des leçons de vie en pagaille, des souvenirs impérissables et un sens à mon métier. Pour moi, qui ai toujours éprouvé une certaine forme de jalousie envers ceux qui ont étudié à la Sorbonne ou à Sciences Po, ils ont été la grande école où je ne suis jamais allée. » Rachid Zerouki, vous ne bougez pas, on a encore de jolies choses à partager. Et une liso pour commencer. Woke up this morning to somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on Bissonette. Call up anybody I know and they will tell you that. Fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to believe. Special, oui, elle est spéciale, cette Lizzo, comme le sont toutes celles et tous ceux qui passent par ici ou qui nous écoutent ou qui la font, cette émission. Pas mal dans le genre En Marche, Djoubaka à la programmation musicale. Guillaume Roux est à la technique, Anaïs Reynard à la réalisation, Caroline Pommès et Ophélie Vivier à la coordination. Rachid Zerouki, alias Rachid l'Institut sur les réseaux sociaux, est notre invité. Allez.
En Marge. Sur France Inter.
Pour monsieur, ça marche aussi. Hein. Rachid Zerouki, tout commençait avec vous à Fès un 30 juillet 92. Vous êtes arrivé jusqu'à nous, on a remonté le temps jusqu'ici. La suite, l'après, l'infini, avec vous, c'est sûr, ce sont-ci.
She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.
Al Jay, Breeze Blocks, c'est la musique qui pourrait vous accompagner pour l'éternité?
Oui. Parce que... Pour être tout à fait franc, je ne sais pas ce qui se dit dans cette musique, mais je l'adore. J'adore le groupe Al Jay. Je les ai même vus en concert. Un des rares concerts où je suis allé. Parce que j'adore Al Jay. Je me mets ça, voilà, pour poser des étapes dans ma journée, dans ma vie.
Et alors avec vous, comme objet, vous emporteriez... Ah, je le vois là.
Très précieux. Parce que à l'époque où je courais, et où je courais mal, où je courais lentement, où je courais quand même, j'avais fait, regardez, c'est écrit là, le semi-marathon de Cavaillon. Et j'étais arrivé premier, même en étant nul, je suis arrivé premier. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non.
Parce que j'étais le seul de ma catégorie.
C'est...
La catégorie junior, j'avais, du coup, je sais pas ce que c'est, junior dans la course, c'est moins de 23 ans, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais le seul. Et du coup, même si j'avais fait, c'était quoi? C'était 2h30. Et quand je suis arrivé, ils commençaient à ranger. Ils avaient même fini de ranger. Et j'arrive. Et du coup, bon, un peu gauche, un peu honteux d'arriver aussi tard. Désolé. Et sincèrement, je pense que je suis le dernier arrivé dans la course. Mais arrive le moment où on remet les prix. Donc, on appelle celui qui a gagné le marathon, telle catégorie. Arrive la catégorie junior. Et là, le mec, il en croit pas ses yeux. Il se dit, il annonce le chrono pour tout le monde. Hein, et il y a avec 2h42, on a gagnant, c'est Rachid Zerouki. Je monte sur le podium quand même, tout seul. Et on m'applaudit, on me remet des fleurs, on me remet ce trophée. On me remet une sorte de colis cadeau, c'était des pâtes panzani. Et je rentre avec ça, et c'était un très beau moment dans ma vie, inoubliable.
Et pourquoi vous l'avez gardé? Qu'est-ce qui vous dit en fait?
Il me dit, il me rappelle un bon moment déjà, un moment de victoire. J'aime bien parodier ce qu'on dit souvent sur la volonté, les efforts quand on veut un peu.
Ouais.
Moi, c'est pas quand on veut un peu ça, c'est quand il y a des circonstances favorables, un miracle peut se produire et on peut se retrouver vainqueur d'une course.
Quant aux mots que vous nous laisseriez, ce seraient ceux de Chris Walker dans La Jetée. C'est la phrase d'introduction de ce film expérimental. Elle dit « Rien ne distingue les souvenirs des autres moments, ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. » En Marge, c'est terminé pour ce soir. Merci Rachid Zerouki d'être venu partager vos souvenirs, votre histoire, vos combats, vos engagements. Je redonne les titres de vos deux livres, Les Incasables et Les Décrochés, tous deux édités chez Robert Laffont. Merci infiniment. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur France Inter, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir.